وصحبه ومن والاه الى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى. On avait commencé le tafsir de Walayli Ida Yarsha il y a quelques temps de cela, et on ne va pas revenir avec précision sur chaque verset qui a été abordé, mais pour résumer un peu ce qui a été dit dans le tafsir de Walayli Ida Yarsha, on avait commencé en expliquant que dans ce sourate, comme dans beaucoup de sourates, Allah subhanahu wa ta'ala commence en faisant qasam par des créatures existantes. Et ce qasam est accessible à nous car ce sont des créatures qui sont présentes dans notre vie. Allah Ta'ala fait qasam par des choses qui sont proches de nous. En l'occurrence là, de ce verset, de ce surat, Allah Subhanahu wa Ta'ala fait qasam par la nuit quand elle enveloppe tout et par le jour quand il éclaire. Et certains mufassirin disent également que le fait qu'Allah Ta'ala il cite deux choses contraires, la nuit et le matin, c'est une preuve également de la qudrat d'Allah, de la puissance, de la force d'Allah sur tout ce qui existe dans ce dunya, de tout ce qui est créé. Parce que tout ce qui est en dehors d'Allah, kullu ma siwa Allah makhluq, tout ce qui est en dehors d'Allah est créature et donc sous le contrôle d'Allah. Tant Allah a le contrôle sur le matin, tant Allah Ta'ala a le contrôle sur le soir. On avait vu que l'alternance entre le soleil, le coucher, le lever du soleil, c'est une sunnah d'Allah de la création. Et on avait vu quelle est la hikmat, quelle est la sagesse d'Allah Ta'ala dans l'alternation entre la nuit et le jour. On a vu également que certaines choses, certaines actions peuvent être faites exclusivement le matin et certaines actions ne peuvent être faites complètement que le soir. Et que l'un ne peut substituer à l'autre. Par exemple, un être humain normalement constitué ne peut pas inverser son horloge biologique, ne peut pas inverser son rythme de vie. C'est-à-dire que cette personne ne peut se dire que je dors le matin et je travaille la nuit. C'est un rythme qu'il pourra tenir pendant un certain temps, mais toute la vie ce n'est pas possible. Et si une personne prend ce rythme, il y aura un dysfonctionnement dans son état de santé physique comme dans son état de santé psychologique. Parce qu'Allah Ta'ala a donné des spécificités à la nuit comme Allah Ta'ala a donné des spécificités au jour. Et à travers l'alternance entre le jour et la nuit, on voit la puissance d'Allah Ta'ala et la faiblesse des créatures. Nous constatons depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes conscients, le soleil se lève le matin et il se couche le soir. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais y a-t-il un être humain, y a-t-il une créature aussi puissante, aussi forte, aussi célèbre peut-elle être? Y a-t-il une créature, un homme, qui peut dire qu'aujourd'hui j'empêche le soleil de se lever ou aujourd'hui j'empêche le soleil de se coucher? Nous sommes spectateurs de choses qui se passent autour de nous et tout ça, c'est l'organisation parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cet être humain qui ne peut rien sur ce qu'il y a autour de lui, peut-il oser se prononcer et dire que tout ce qu'il y a autour de moi, c'est la nature, il n'y a pas de Dieu, tout ça c'est dame nature. Un homme qui ne peut même pas arrêter un rayon de soleil, un homme qui ne peut empêcher une goutte de pluie de tomber, un homme qui ne peut empêcher la tectonique des plaques, un séisme se produire dans une zone ou dans un pays, comment cet homme peut-il remettre en cause la grandeur et l'existence de celui qui est à l'origine de tout cela? On voit bien la distance, l'incompréhension qu'il y a de la part d'un homme qui se base uniquement sur l'entendement, sur ce qu'il peut comprendre pour tirer des leçons, pour faire des déductions. On a vu également que s'il n'y avait que le soleil, il n'y aurait plus de forme de vie possible. Toutes les créatures seraient brûlées, humaines comme végétales.
On a vu que s'il n'y avait que la nuit, il n'y avait pas de soleil, nous serions tous morts. Car la peau a besoin des vitamines qu'il y a dans le soleil. Si je ne me trompe pas, ce sont des vitamines K. Et l'excès de soleil, s'il n'y avait que le soleil, il y aurait ce qu'on appelle, qu'Allah nous protège, les cancers de peau, de la peau, ont pour origine une exposition exagérée au soleil. Donc dans chaque chose, il y a une alternance, il y a un juste milieu. Et comme on disait, s'il n'y avait que la nuit, ben les plantes, il n'y aurait plus de plantes, d'arbres fruitiers, et il n'y aurait plus de forme de vie possible. Donc ça c'était pour résumer. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى Et ensuite, Allah Ta'ala dit, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, Allah Ta'ala dit, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى On a vu également que dans la création d'Allah, il y a toujours un mâle et une femelle. Et on a vu que pour que la création continue à exister, l'accouplement ne peut avoir lieu qu'entre mâle et femelle. Et si nous constatons certains mouvements aujourd'hui, certaines personnes qui se marginalisent en se proclamant le droit de vivre avec un être du même sexe au nom de la liberté, si selon la législation, nous ne pouvons pas les contredire, mais la question qu'on peut se poser par contre, si l'humanité entière était de ce mouvement homosexuel, si tous les hommes se mariaient avec les hommes, et les femmes vivaient avec les femmes, y aurait-il eu encore un être humain dans 100 ans? Jamais. Parce qu'il n'y aurait plus de procréation. Le simple fait de voir ça, ça nous fait comprendre par la logique que c'est contraire à la nature qu'un homme se marie avec autre qu'une femme. Donc on comprend dans la sunnah d'Allah, sans porter atteinte à ces personnes, parce qu'il y a des lois qui condamnent l'homophobie, mais on essaie juste de poser une question, d'accord? Si l'humanité entière a adhéré à ce mouvement, est-ce qu'il y aurait eu encore un être humain dans 150 ans? Ben, la création se serait immédiatement arrêtée. Voyez? Également, on avait dit qu'on allait penser des détails, mais on est en train de le faire. Voyez, on a vu également la création de l'homme, de la femme, l'origine d'Adam, Hawa, alayhi wassalam. On a vu également que certains scientifiques osent clamer qu'ils arrivent maintenant à créer, à donner la vie. Le système, le phénomène de clonage, ou alors, avec un terme scientifique que je ne retrouve pas, voilà, la fécondation in vitro, ou ce genre de choses, d'accord? Fécondation in vitro, par exemple, cela n'a strictement rien à voir avec la création. Car lorsqu'on dit qu'Allah crée, c'est qu'Allah Ta'ala crée à partir de rien. Lorsqu'Allah Ta'ala crée Adam, c'était sans qu'il n'y ait quelque chose à l'origine. Et comme on l'avait dit l'année dernière, si vous vous en souvenez, si on dit à un scientifique, le plus grand professeur en biologie ou en génétique, celui qui dit qu'il peut cloner un chien, ou qu'il peut cloner une brebis, ou qu'il peut cloner ce qu'il veut, on dit à ce scientifique, si tu prétends avoir le pouvoir de créer, je te donne une paire de gants, une table de travail, et je t'enferme une journée dans une salle. Crée maintenant. Il va dire non, c'est pas possible, il faut une cellule souche. Il faut qu'à l'origine j'ai une cellule à partir de laquelle je vais extraire, je ne sais pas comment ça s'appelle, des gamètes ou je ne sais pas quoi, et refaire la création. Cela ne s'appelle pas créer, c'est une photocopie. Ils prennent une créature existante parce qu'un homme, c'est un être vivant, mais une cellule, c'est de la vie également. Dans la cellule aussi, il y a le ruh, il y a une vie. Voyez, si vous prenez une cellule morte, une cellule de peau, ou alors quand vos cheveux tombent, ou alors il y a un peu des, comment on appelle ça, des cellules de peau, un petit morceau de peau qui tombe par exemple, hein, on dit à un scientifique, donnez la vie à cette cellule morte. C'est pas possible. Voyez, si on, alors ce scientifique qui dit qu'il peut créer, ben non, il ne crée pas, il extrait la vie et il le met à une échelle supérieure. C'est comme si je prends le livre de Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, et je le photocopie et je dis j'ai écrit le livre. J'ai pas écrit, j'ai photocopié. Celui qui a écrit c'est qui? Celui qui avait une page blanche, il a pris son stylo et il a donné naissance à un texte à partir de rien. De la même manière, le scientifique ne donne pas la vie par la fécondation in vitro ou par le clonage, il ne fait que reproduire ce qu'Allah a déjà créé comme ruh, comme vie. Vous voyez? D'autres choses encore on avait vu, Également, inna sa'yakum la shatta. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit, vos efforts sont divergents. Il y a des gens qui, dans cette vie de dunya, vont prendre le droit chemin, sirat al-mustaqim, et il y a des gens qui vont prendre le chemin des shaitans, qui vont suivre leurs passions et leurs instincts. Et en fonction du chemin que chacun va prendre, ben, il y aura des conséquences et il y aura une destination. Et Allah Ta'ala cite les deux cas de figure. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحِسْنَى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle des récompenses, c'est le mu'min qui reste dans le droit chemin, qui donne dans le chemin d'Allah, qui croit au paradis, qui croit à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que ce verset était spécifiquement révélé pour Abu Bakr radiallahu ta'ala. Cette personne qui suit le droit chemin, فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Allah Ta'ala accordera le succès à cette personne dans ce dunya comme dans le akhirat. Évidemment, ces deux versets, on avait commenté longuement, mais on ne va pas revenir avec détail là-dessus. Ça, c'est la première catégorie de personnes. L'autre catégorie, وَأَمَّا مَنْ بَقِيَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Et quant à celui qui est avare, qui se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, c'est-à-dire l'opposé totalement, l'homme, la personne radin, qui ne croit pas en la promesse d'Allah, qui ne dépense pas de le chemin d'Allah, cette personne, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui accordera comme en conséquence, فَسَنُ يَسْتِرُهُ لِلْعُسْرَ. Allah Ta'ala va lui faciliter, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté, il prend le chemin inverse, donc sa destination sera totalement opposée. Et on avait vu, parmi les choses qu'on pourrait rappeler, c'est que Allah Ta'ala donne le choix à l'homme entre le fait de prendre le bon et le mauvais chemin. C'est ce qu'on appelle, les philosophes appellent le libre arbitre. Chaque personne a le ikhtiyar, la possibilité de choisir l'obéissance d'Allah ou l'obéissance de Shaitan. Lorsque Shaitan sera dans l'enfer avec ceux qui l'ont suivi, on avait expliqué ça dans le mois de Ramadan, Shaitan dira à ces personnes que voilà, il y avait deux chemins. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah Ta'ala vous a fait une promesse et cette promesse était véridique. Moi, je vous ai fait une promesse et ma promesse était vain. C'était du mensonge. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Je vous ai promis quelque chose. Si vous êtes là, si vous m'avez suivi, fa akhlaftukum. Je n'ai pas tenu ma promesse. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. En ce sens, hein, à ce moment-là sur le dunya, je n'avais pas d'emprise spécifique sur toi. C'est pas moi qui t'ai obligé de me suivre. C'est pas moi qui t'ai obligé de faire le zina, de ne pas faire namaz, de désobéir à tes parents, de travailler avec le haram. Je t'ai pas obligé. Je t'ai suggéré. Je t'ai insufflé. Tu étais libre de choisir l'obéissance d'Allah et mon obéissance à moi. Maintenant, tu m'as obéi. Tu as cru en ma promesse. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Je vous ai promis, فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Et vous avez accepté. Vous m'avez répondu. Vous avez répondu présent. La bête, Shaitan. Shaitan a dit, voilà telle chose, fais zina, allons en boîte, bois l'alcool, fréquente n'importe qui, fais telle chose, et vous avez répondu présent. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Et puis Shaitan, qu'est-ce qu'il dira? فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Ne me faites pas de reproches. C'est vous-même qui êtes responsable. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrikhi. Maintenant, je ne peux rien pour vous, vous ne pouvez rien pour moi. Les carottes sont cuites et plus que cuites, en bouillie même dans le jahannam. Nasallallahu al-afiya. Donc, les deux chemins, Allah donne le choix à l'homme et en fonction du choix, selon ce qu'Allah avait prédestiné, tout en sachant quel aurait été notre choix, ça c'est complexe le tafdir, Allah Ta'ala donne une destinée, paradis ou enfer. Et pour résumer ces deux chemins, un hadith, et c'est à partir de là qu'on reprend, donc c'était arrêté à l'année dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith, et ce hadith résume bien les deux chemins et le choix de l'homme. Ce hadith approuve l'existence du choix. On ne peut être fataliste comme on ne peut renier le destin. On avait déjà dit plusieurs fois, ce sont les deux plus grands mouvements, les deux grandes sectes, les premières sectes qui sont nées dans l'islam, qui se sont déviées de Ahl Sunnah wal Jama'a, les Qadariya et les Jabariya. Les Qadariya, ils ont dit que la Qadra, il n'y a pas de destin. Allah ne sait pas ce que je vais faire demain. Parce que Allah ne peut pas extraire de mon destin le haram. Ce qui est mauvais ne peut provenir d'Allah. Vous voyez, ils n'ont pas compris la subtilité du destin. Et les Jabariya, ils ont dit quoi? Que tout a été destiné, tout a été décidé par Allah à l'avance, donc on n'a pas le choix. C'est le fatalisme. Si je fais un péché, c'est écrit. Si en sortant, je vais boire un dodo, une bière, c'est écrit dans mon takbir. Si en sortant, je vais boire de le zamzam, c'est écrit dans mon takbir. Si demain, je ne fais pas parce qu'Allah l'a bien voulu, si demain, je ne viens pas namaz, c'était pas écrit dans mon destin, je n'aurais rien pu faire pour venir à Fajr. C'est un madhab batil, comme l'homme, c'est un madhab batil. Taïb. Et Allah Ta'ala donne le choix à l'homme. Et ce qu'on va faire, Allah, il savait déjà à l'avance ce qu'on allait faire. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avions pas la possibilité de choisir. Et c'est là que la frontière entre notre logique et l'organisation d'Allah. Nous ne pouvons pas réaliser certaines choses. La frontière entre ce que nous faisons et ce qu'Allah, il savait déjà, on ne peut pas comprendre. Taïb. Et un exemple pour qu'on comprenne bien que le taqdir est complexe. Lorsque dans l'enfer, certaines personnes demanderont à Allah de retourner sur cette terre, et qu'une fois retournés sur cette dunya, là, ils passeront leur vie dans l'obéissance. Allah Ta'ala dit, « وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ » Que Allah Ta'ala, il sait, comme on avait dit, c'est quoi le ilm d'Allah? Allah, il connaît le passé, le présent, le futur. Et Allah, il connaît si le futur aurait été de la sorte ou d'une autre manière, comment cela aurait été. Et c'est là qu'on ne suit plus. Allah, il connaît tous les futurs existants et inexistants. Tous les cas de figure. Vous voyez? Par exemple, quel exemple je peux donner? Je sors de masjid. Vous voyez? Je prends le chemin derrière 2000. Allah protège. Arrivé à cet endroit, je ne vais pas dire un accident, j'ai une roue crevée parce qu'il y avait un clou. Vous voyez? Allah, il a prédit ça. Mais Allah, il sait également que s'il avait prédit que je passe par l'autre chemin, il ne serait rien arrivé. Mais je suis passé par la Tani, par 2000, et ma roue est crevée. Mais l'autre cas de figure que je n'ai pas fait, Allah, il savait aussi quelles auraient été les conséquences, comment cela aurait abouti. Alors que c'est inexistant. C'est inexistant, mais Allah, il sait ça aussi. Et c'est là la frontière entre le ilm d'Allah et la connaissance de l'être humain. Nous, on connaît les choses qui sont réelles. Mais Allah, il connaît les milliers de cas de figure qui sont irréels. Comment cela aurait pu dégénérer? Taïb. Et donc, Allah Ta'ala dit de ce verset, voilà, redou. Si Allah les avait retournés sur la terre, la adu limanuhu anhu, ils seraient retournés vers le haram. Même après avoir vu le feu de l'enfer, si Allah les avait retournés sur la terre, ils auraient recommencé à jouer à des bienfaits du dunya. Alors Allah, il sait dans sa science infinie que ces gens seraient retournés dans leurs erreurs premières. Même si Allah ne les a pas envoyés sur la terre, mais Allah, il connaît le futur qui ne se produit pas aussi. Ça, c'est la connaissance d'Allah, et ça, c'est vraiment quelque chose d'inaccessible pour nous. Donc, pour revenir à ce hadith qui montre bien le libre arbitre, le choix, « قال عليه الصلاة والسلام » كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. Toutes les personnes de ma communauté entreront au paradis le jour de Qiyamah, sauf ceux qui refusent. Et là, يسأله prophète d'Allah, ومن يأبى يا رسول الله. Qui refuse d'accéder au paradis au prophète d'Allah? Le prophète dit, من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit ira en... Celui qui me désobéit, ben c'est lui qui a refusé. Deux destinées différentes. Est-ce que Allah oblige celui-là à aller au paradis et oblige celui-là à aller en enfer? Non! Le prophète dit, celui qui m'a suivi, il ira au paradis. Celui qui ne me suit pas, il n'ira pas au paradis. En fonction de votre choix, de vos actions, ben votre destinée sera différente. Et ce hadith montre bien que le libre arbitre existe, nous choisissons ce que nous faisons, et ce que nous avons choisi, c'est ce qu'Allah, il savait déjà que nous allons faire dans son ilm, dans sa science infinie. Taïf. Maintenant, on a dit qu'on fait 30 minutes, et là j'ai un chronomètre, hein, on a 19 minutes. Taïf. Il nous reste 11 minutes, et je vous promets qu'à 30 minutes, on arrête. Au moins, ceux qui ont besoin de s'occuper de la masjid, on ne met personne dans ta clé. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
Traduction. Je te copie spécialement pour ne pas dire de bêtises les traductions. C'est plus concret.
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. Ce verset concerne l'autre cas de figure, la personne qui ne donne pas le chemin d'Allah, qui ne croit pas aux récompenses et qui donc sera égarée. Allah t'a dit quand cette personne verra la réalité, le jour de Qiyamah. Sur le dunya, on lui parle de l'enfer, du paradis, pour lui ce sont des notions inexistantes. Ce sont des affabulations. Moi je ne crois pas à ça. Je crois à ce que je vois. Tous les mois je gagne 2000 euros, pas moi, 3000 euros, 4000 euros, ça c'est moi, 4000. 4000 euros, 5000, ça oui. Si je vois le billet mauve, certaines personnes, depuis que l'euro est sorti, leur couleur préférée, c'est devenu le mauve. Je ne sais pas pourquoi. Oui. S'ils voient un billet mauve, là oui, je crois, je connais, ça je comprends. Mais quand on parle de 5 salades, vous lavez de vos péchés, vous reviendrez auprès d'Allah pur, ah, tout ça, quelque chose, ça, je ne comprends pas. Je veux voir la couleur. Montre-moi un diamant bancaire, montre-moi une carte bleue, un billet mauve, là, mes camarades, à nos causés, là, oui. Et ces personnes qui ne croient qu'à ce qu'ils voient, que le dunya, ce qui est palpable, la jouissance immédiate, ces personnes, le jour de Qiyamah, lorsqu'ils seront exposés, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. C'est quoi, qu'est-ce que veut dire, إِذَا تَرَدَّى? Les mufassirins disent que إِذَا تَرَدَّى, lorsque ces personnes seront projetées, seront jeté ou alors lâché dans At-Taradda, quand il sera jeté au feu, et Afakhraziti, quand cette personne verra la tombe, le trou, ce fossé, quand la personne est posée dans le fossé de la tombe, elle est consciente. Et lorsqu'elle rentre dans le fossé de la tombe, là elle comprend c'est quoi. Là elle comprend que c'était quoi dunya. J'ai travaillé 60 ans, j'ai eu un capital, j'ai eu des commerces, des biens, j'ai fait fructifier ma fortune, mes héritiers maintenant ils sont tranquilles, ils ont de l'argent, j'ai laissé des grosses voitures 4x4, gros X5, X6 maintenant, puis une sortie, c'est magnifique. Il y a tout, j'ai tout eu dans ma vie. Mais là, quand je suis posé dans ce fossé, je vois que le dunya c'est derrière moi. Rien ne vient avec moi dans ce dunya, dans cette tombe. Et tout ce que j'ai laissé, c'est mes héritiers qui sont en train de se partager. Quand ils ne s'entretuent pas pour le prendre, ils le partagent amicalement. Lorsque je suis enterré, mes héritiers vont chez le notaire pour partager mes biens. Ma femme, soit elle se remarie, soit elle reste veuve, mais elle est tranquille. Elle a eu un sixième ou alors une certaine quantité de mes biens. Elle a ce qu'il faut. Mais moi, qu'est-ce que j'ai là? Tout ce que j'ai gagné, c'est où? Ça ne vient pas avec moi. Et là, la personne se rend compte, il a taradda. Lorsqu'elle y est dans la qabr, là, elle se rend compte, qu'est-ce qui est avec moi. Hadith, par exemple, dit que, Hadith a déjà répété 12 fois. Mais si on comprend, ça c'est le maqsad. Haqiqat, réalité, rentre dans le cœur. Lorsqu'une personne meurt, yatba'hu thalatha, trois choses suivent le défunt. Ses biens, sa famille, ses actions. Lorsque la personne est enterrée, après l'enterrement, la famille repart. Les biens repartent. La famille, elle va où? On a dit, ils vont faire le deuil. Et les biens, chez le notaire, pour faire le partage. Et la seule chose qui reste avec le défunt, c'est a'mal, ses actions. Lorsque l'homme rentre dans le qabr, dans le trou, dans le fossé, là, cette personne comprend. Également, lorsque la personne est précipitée dans le jahannam, elle comprend son erreur. Et là, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ. Et là, sa fortune ne lui serviront plus à rien. C'est fini. Même si vous étiez l'homme le plus riche, le plus respecté, mais ça c'est votre passé ça. Et les anges qui posent des questions dans la tombe là, ça ne les fait rien du tout. Ils ne sont pas préoccupés par votre situation professionnelle. Que vous étiez dans ce dunya PDG, ministre, président de la République, président de je ne sais quoi, ou alors roi, ou alors footballeur professionnel, meilleur buteur de First League, ou que vous étiez abonné au RMI, que vous étiez un homme pauvre, inconnu des gens ou très célèbre, les anges ils ne regardent pas, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qui est ton Dieu, qui est cet homme? Ça, c'est les questions, ce iman. Le reste, c'est pas de leur programme, passez-moi l'expression. Ils ont une mission, les anges, poser les trois questions. En dehors de ça, ils ne connaissent pas, ce n'est pas leur travail. Ça ne les intéresse pas. Donc, وَمَا يُرِنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ lorsque cette personne est précipitée dedans, dans l'enfer, et Razi dans la tombe également, ses biens ne lui seront plus d'aucune utilité. Et la seule chose qu'on vient de dire qui reste, ce sont les a'mal. Et les Mufassirin disent que les biens de cette personne ont procuré à ce propriétaire, certes, une jouissance, mais c'était une jouissance temporaire. Et même dans la jouissance de ce dunya, même si quelqu'un est très riche, comme on le disait pour Jum'a, la richesse n'est pas synonyme de bonheur. On peut être très aisé, mais vivre angoissé. Est-ce que mon investissement sera porteur? Est-ce que le choix que j'ai fait dans telle chose que j'ai acheté, est-ce que mon argent sera fructifié ou je ne vais pas perdre? Est-ce qu'un voleur ne va pas rentrer chez moi, ne va pas voler mes biens? Est-ce qu'il n'y aura pas un crash boursier et que les centaines de milliers d'euros ou mes millions d'euros depuis 15 ans je travaille n'auront plus de valeur parce que la banque va faire faillite? L'angoisse. Ce n'est pas parce qu'on est aisé qu'on a la tranquillité du cœur. Donc même sur ce dunya, on ne peut pas dire qu'elle était heureuse à 100%. Et donc c'est uniquement les a'mal qui seront profitables. Mais là également, faire bien attention, une action n'est acceptée par Allah qu'à partir du moment où il y a la sincérité et où l'action est prouvée par la sunnah, par le Coran ou la sunnah. Dans un hadith de Anas, il dit que le jour de Qiyamah, le jour de Qiyamah, encore 4 minutes inshallah, le jour de Qiyamah, il y aura une personne qui aura son livret de compte. Et elle se présentera auprès du tribunal d'Allah, et Allah Ta'ala dira aux anges, jetez telle action, waqbalu hada, et acceptez ça. Ça vous jetez, ça vous gardez. Et les anges, ils disent que, oh Allah, par ton honneur, wa izzatuka, par votre honneur, ma ra'ayna illa khayra. Nous pensons que ces actions sont bonnes. Ils voient namaz, ils voient umrah, ils voient khatm al-Qur'an. Ils ne comprennent pas pourquoi Allah il jette ses actions. Allah Ta'ala dira à cette personne, wa huwa a'lam, et Allah il connaît mieux, inna hadha kana li ghayri. Ces actions, ce n'était pas pour moi, c'était riya, c'était par ostentation. Même s'il y a des montagnes de thawab, ils seront jetés. Et uniquement les actions qui ont été faites pour Allah, avec sincérité du cœur, ces actions seront acceptées. Hadith donc, l'imam Muslim rapporte l'imam hadith bil ma'na. Également, on a dit la deuxième condition, c'est que l'action soit prouvée. On peut faire une vie entière de bonne action, mais si l'action n'a pas de source dans le Coran ou dans le hadith, ce sont des actions que les sahaba n'ont pas faites. Si ce sont des actions que les tabi'in n'ont pas rapportées, que les personnes qui sont venues après les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont vu les sahaba, ils n'ont pas su, ils n'ont pas fait. Si ce sont des actions que les ulama de la umma, qui sont les piliers de la religion, ils n'ont pas transmis. Si on accomplit une action que Abu Hanifa lui-même ne faisait pas, que Imam Shafi'i ne faisait pas, que Imam Malik ne faisait pas, que Imam Ahmad bin Hanbal ne faisait pas, une action méconnue par Bukhari, par Muslim, par Ibn Majah, par Abu Daoud, par Tirmidhi, etc., etc. Si on fait une action inconnue, qui est nouvelle, même si l'origine c'est tel grand musulman, tel personnage très pieux, mais attention, nous avons chacun nos références. Moi, me dit mes personnages pieux, ils ont fait ça. Enfin, lui, il est de telle origine, ces personnages pieux pour lui, ils ont fait ça. Lui, il est de telle origine, mes ancêtres, ils faisaient ça. Taïb, d'esca koubé d'islam, il y a alors. Alors que le prophète a dit que taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous accrochez à ça, jamais vous ne serez perdu. Coran et sunna. Et Coran et sunna sont compris, on ne comprend pas Coran et hadith directement. Il faut voir l'explication des ulama. Ulama c'est qui? Pas nous, nous on est des, on reproduit, on a fait copier.
Les ulama, c'est qui? Imam Abu Hanifa. Comme on a dit, Malik, Shafi, Ahmed, Bukhari, Muslim. Si eux, ils ont dit qu'il faut faire comme ça, khalas. Mais si eux-mêmes, les plus grands savants de l'histoire de l'islam, car le prophète dit de génération en génération, le degré de iman diminue. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des communautés des époques, c'est la mienne. Ensuite celui qui vient après, ensuite celui qui vient après. Donc il y a une décadence de l'ilm, la science disparaît de génération en génération. Iman diminue, tawakkal ala Allah diminue, a'mal diminue de génération en génération. Voyez, si les plus grands ulama, les meilleurs musulmans du monde, les meilleurs des époques, ils n'ont jamais fait une telle action. Pourquoi moi je vais le faire? Est-ce qu'on ne voit pas clairement de nos yeux qu'on est en train de prendre un chemin différent de ce que nos prédécesseurs ont fait? Donc compréhension du Coran et du Sunna passe par la compréhension des ulama. Et nos références, c'est les A'immar Ba'a, les ulama qui ont écrit Bukhari, Muslim, etc. Et tous les grands alim, Qurtubi, Ibn Kathir, Al-Fakhr al-Razi, Al-Baydawi, Al-Shawkani, ça ce sont des ulama. Dans les quatre premiers cercles de l'islam, ça c'était ilm. Aujourd'hui, c'est plus ilm. Aujourd'hui, regardez le livre là. Regardez sur quel livre on se base. Vous voyez, vous croyez que c'est un livre qui a été écrit il y a 7 ans? Vous croyez que c'est un livre que quelqu'un il habite là-bas et il a écrit ça? Je n'ai pas la date, mais c'est des gens qui ont vécu au 5e siècle, au 6e siècle. Vous voyez, ça c'était ulama. Ça c'était les piliers, ceux qui étaient proches du wahi. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser. Donc, l'action ne peut être acceptée. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui amène une action qui n'a pas de source dans ce que j'ai révélé, j'ai apporté, c'est rejeté par Allah. Man amila amalan laysa. Hadith encore, celui qui a accompli une action qui n'a pas d'origine, l'action est mauvaise. Donc, qu'on comprenne bien. Et dernier point, là on a fait 32 minutes. Voyez, dernier point, autre danger dans les a'mal. Là on a dit que le plus important c'est les actions. Mais attention, Parmi les péchés qui rejettent, qui annulent nos bonnes actions jour de Qiyamah, c'est l'oppression. Et ça, pourquoi je le dis? Parce que même si ce n'est pas en rapport avec le tafsir, mais ça, il y a beaucoup. Il y a trop. Quelqu'un qui fait l'oppression, dunya, le jour de Qiyamah, c'est l'obscurité. Si sur ce dunya, elle ne paye pas, si sur ce dunya, elle ne demande pas maaf à l'opprimé, ben là-haut c'est grave. Quand Allah dit que, sans hadith Qudsi, que verset du Coran également, qu'Allah n'est pas Wallam al-Ibad. Allah ne fait pas de zulm sur les serviteurs. Et Allah, il déteste, il ne fait pas de zulm et il a interdit le zulm entre nous. Et le jour du Qiyamah, le Prophète a dit aux Sahaba, connaissez-vous qui est le Muflis? A dit au Prophète d'Allah, le Muflis, c'est celui qui n'a pas d'argent. On a dit non, le Muflis, on a déjà dit ça beaucoup de fois. Celui qui vient le jour de Qiyamah auprès du tribunal d'Allah, en ce sens, avec beaucoup de salat, de zakat, hajj, umrah, tilawat al-Qur'an, dhikrullah, beaucoup d'a'mal. Faqad shatama hada, wa qadhafa hada. Mais de ce monde, il a insulté telle personne, il a accusé à tort telle personne, il a fait oppression sur telle personne. Le jour de Qiyamah, l'opprimé appelle l'oppresseur auprès du tribunal d'Allah, et Allah compense l'opprimé par les a'mal, par les bonnes actions de l'oppresseur. La personne vous a fait roule, mais elle était régulière dans ses namaz, dans son tahajjud. Les tahajjud reviennent pour vous, opprimé. Et si les bonnes actions ne suffisent pas, Allah il prend les péchés de l'opprimé, il met dans le compte de l'oppresseur. Vous avez fait du tort à quelqu'un qui était gounéga, qui était pécheur. La personne elle en boîte, elle buvait de l'alcool, mais vous avez fait du tort. Ces péchés que vous n'avez jamais faits seront mis dans votre livre de compte à cause du vol. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, à la fin de Tawfiq, de comprendre le récapitulatif qu'on a fait de Wallah Lida Yarsha, et qu'on comprenne bien, s'il y a une leçon à retenir ce soir, c'est mes chers frères, l'argent ne fait pas le bonheur, ni sur ce dunya, et l'argent ne fait rien. Pour ce bas monde, on pourrait dire ça, l'argent ne fait pas le bonheur, et pour le akhirat, l'argent ne fait rien du tout. Inexistant. Si ce message est entré dans nos cœurs, qu'on comprenne que mon succès c'est dans l'obéissance aux ordres d'Allah et à la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, là je serai heureux éternellement, alors on a tout compris. Dans ce cas, notre attachement pour les biens de ce monde ne sera plus les mêmes. nos priorités vont changer. On va comprendre que mon but, c'est quoi? Préparer ma rencontre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne cette prise de conscience, que chacun d'entre nous considère la réalité de sa vie sur ce dunya et que nous orientons notre objectif vers le contentement d'Allah et non pas notre satisfaction ou devenir célèbre, riche, aisé. Que notre but c'est quoi? C'est qu'on quitte ce dunya et qu'Allah soit content de nous. Lorsqu'on est posé dans la tombe, on soit heureux. Lorsqu'on est ressuscité, on est avec les sahaba. Lorsqu'on entre dans le paradis, on est avec les hommes pieux. Qu'Allah nous accepte et nous choisisse pour cela. Et Inch'Allah, la prochaine fois, vendredi prochain, Inch'Allah, on ne fera pas tafsir, parce que vendredi prochain, il y a un événement extrêmement important pour les jeunes, uniquement les jeunes, de 15 à 25 ans, qui aura lieu à Saint-Pierre, vendredi, samedi, dimanche, vendredi à partir de 10h jusqu'à dimanche après-midi. C'est, on appelle ça le RDJ, le rendez-vous des jeunes. On attend, il y a 400 inscriptions de jeunes sélectionnés dans chaque ville et il y aura des programmes extrêmement importants. Il n'y aura pas de bayan, ce sera des conférences avec discussions, des questions posées, animées par les ulama, des jeunes alim, par des professionnels, etc., etc. C'est quelque chose d'extrêmement profitable. Donc si vous avez entre 15 et 25 ans, rapprochez-vous des ulama de votre ville, car l'entrée ne se fait que par autorisation, que par invitation. Il y aura un badge donné aux personnes qui ont été sélectionnées, et donc parce qu'il faut, il y a toute une infrastructure à prévoir pour ça. Donc si on accueille 1000 personnes, on ne s'en sort pas. Donc chaque alim de votre localité peut enregistrer 10 personnes. Donc si quelqu'un il a des affinités avec un alim, dit voilà, même si on n'est pas dans madrasa, ça n'a aucun rapport avec madrasa. Donc enregistrez-vous et venez, ce sera extrêmement profitable. Les problèmes de la société seront abordés. Les problèmes de la ummat, la solution à tous les fléaux de la jeunesse seront abordés avec l'espoir de trouver une solution et un suivi. Je vous demande avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'attente, faites dua qu'Allah Ta'ala nous donne succès, qu'Allah Ta'ala fasse que cette réunion soit un succès. Tous les parents nous disent que nos enfants sont dans tel problème, dans tel péché, et on ne trouve pas de solution. Mais là, ce séminaire, c'est pour essayer de trouver une solution à ces problèmes de la jeunesse. Donc faites beaucoup de dua qu'Allah Ta'ala facilite cette organisation. Peut-être par ce majlis, par cette assemblée, on peut changer la destinée de milliers de jeunes. Allah seul le sait. Des personnes qui étaient dans le mauvais chemin, ils peuvent retrouver le droit chemin. On a beaucoup d'espoir qu'Inch'Allah, il y aura un effet pendant cette réunion. Et je vous demande à chacun, réveillez-vous, d'ajoud. Faites dua qu'Allah Ta'ala fasse que cet effort aboutisse. Nous, on ne fait rien, c'est Allah qui fait. Nous, on fait des efforts. Qu'Allah déverse sa hidayat dans le cœur de chaque jeune qui sera présent dans ces 3 jours la semaine prochaine. Et après ça, Inch'Allah, on va reprendre normalement notre tafsir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.